à la page 33. Donc on va commencer la technique par un chapitre préliminaire qui va faire plaisir à beaucoup de monde parce qu'on va parler des rappels de mathématiques et d'algèbre. Alors j'espère que ça doit... Alors je sais qu'il y en a certains qui... qui sont qui sont blancs là-dessus. Mais on va essayer de faire quelques rappels de mathématiques, d'algèbre, et surtout à la suite, on va parler des puissances de 10, des multiples et des sous-multiples, parce que en radio, malheureusement, on est obligé d'utiliser ces multiples et sous-multiples, puisque les unités que l'on a, ce sont des unités qui sont extrêmes, c'est-à-dire quand on parle par exemple de fréquence, on va parler en hertz. Et il est évident que quand on est dans le domaine de la radio, on sera plutôt en kilohertz ou en mégahertz, voire en gigahertz. Le kilohertz, c'est plutôt côté BF. Par contre, les fréquences, c'est plutôt en mégahertz ou en gigahertz. Donc, en fait, le hertz ne nous sert à rien, si ce n'est qu'à déterminer les formules. Même chose, par exemple, pour le condensateur. Un condensateur d'infrarad, c'est un truc qui est énorme. Donc, on utilisera pour les composants, courants, le picofarad, le nanofarad, le microfarad, voire le millifarad, mais c'est quand même des... le millifarad est très peu utilisé, à part dans les alimentations, mais dans le domaine radio pur, il est très peu utilisé. Voilà, donc on va revenir à notre premier chapitre qui concerne les rappels d'algèbre et de mathématiques. Alors c'est du rappel un petit peu basique, mais pour certains, c'est une grande découverte. Donc, on va essayer de mettre ça. Plus lentement les maths. Bon, on va essayer de faire lentement parce que de toute façon, j'ai un élève ici qui est blanc au niveau maths, niveau d'algèbre. Il savait même pas que ça existait, l'algèbre. Donc voilà. Les zèbres existent, l'algèbre on connaît pas. Donc la première chose déjà, il faudra bien pour continuer la suite savoir déjà transformer des équations. Alors ça commence déjà, on commence déjà à souffrir. Alors une équation, qu'est-ce que c'est? Une équation, c'est en fait on a un signe égal. Et de chaque côté du signe égal, on a deux choses qui sont justement égales. Et quand on cherche à transformer une équation, c'est qu'on met d'un côté toutes les données qui sont connues, et de l'autre côté du signe égal, toutes les données qui sont inconnues. Alors, en règle générale, il n'y a qu'une seule inconnue et des données. Par contre, la plupart du temps, il y a une formule qui est une formule générale, c'est-à-dire une formule où on parle de A, de B, de C, de D. Donc c'est une formule comme on peut trouver en radio. Et donc toute l'astuce va être de... Alors les données du problème, on va avoir des données, hein, c'est-à-dire que dans l'énoncé du problème, on va avoir des données, et l'exercice, ça va être à trouver la réponse. Et la réponse, on utilise la formule, et on récupère l'inconnu. D'accord ? Alors, en radio, on va voir par la suite, enfin radio et tout ce qui est électricité, toutes les opérations addition-soustraction sont relativement peu courantes, parce que, on va voir, on a très peu de cas de figure où on utilise addition-soustraction. En revanche, on va avoir souvent multiplication-division, et aussi très souvent, les puissances et les racines. Alors une puissance, je rappelle que une puissance c'est un nombre multiplié par lui-même, alors que la racine c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que la racine multipliée par la racine donne le nombre. Quand on dit racine, là c'est racine carrée, mais ça, on n'en a pas besoin pour le cours. Il existe aussi des racines cubiques. C'est donc la racine cubique, c'est racine cubique 3 multiplié par racine cubique multiplié par racine cubique, donc 3 fois, ça donne le nombre. Et puis il y a encore des racines de 4, etc., etc. C'est-à-dire que les racines carrées, c'est la base. De même que la puissance, vous avez la puissance, le carré. Donc le carré, c'est le nombre multiplié par lui-même. Le cube, c'est le nombre multiplié par lui-même, etc. Et puissance 4, bah, c'est 4 fois le même truc, etc. Mais sachant que nous, dans nos applications, on n'utilise que le carré, donc la puissance 2, ou la racine carrée. Mais sachez que ça existe. Hein? Ah bah, il n'y a pas de limite. Et puis après, on apprend qu'on peut aussi avoir des racines de, par exemple, 1,5. Ou puissance 1,5. Ah bah oui. Mais on s'en fout. C'est pas au programme de l'examen, ça. Il n'y en a pas besoin. Ce qui a besoin, c'est la puissance, donc le carré, et la racine carrée. C'est tout ce qu'il y a besoin. Alors, donc, on va avoir besoin de transformer donc des additions et des soustractions, des multiplications et des divisions, et aussi de transformer quelquefois des racines carrées, parce qu'on est un petit peu emmerdé. Si on a une inconnue qui est une racine carrée, ce qui est quand même assez sympathique, c'est de trouver le résultat, donc d'extraire la racine carrée. Bah, je vous rassure quand même, on fait plus ça à la main, il y a les calculettes qui marchent très bien pour ça. Sauvez. Par contre, c'est bien aussi d'avoir des notions de la racine carrée ou du carré, pour si des fois on fait une erreur de manipulation sur la calculette, pour essayer de ne pas trop se planter, quoi. Parce que c'est pareil, les racines carrées, comme les carrés d'ailleurs, on oublie un chiffre et c'est une catastrophe. D'ailleurs, dans toutes les formules, si on oublie un des chiffres, c'est une catastrophe. Donc il faut déjà avoir une idée à peu près, quand on voit un énoncé, avoir, enfin pas une idée précise du résultat, mais enfin un ordre d'idée déjà, pour voir si des fois la réponse est complètement déconnante par rapport... Alors ça viendra par la suite, hein. Je vous rassure, ça vient pas tout de suite, hein. Ça vient par la suite, c'est-à-dire que quand on voit des données d'un problème, eh bien, on se dit, ça, bon, grosso modo, ça doit se trouver dans ces eaux-là. Mais bon, ça vient par la suite, hein. Ça vient à la retraite, ouais. Donc, alors, premièrement, on transforme les additions et les soustractions. Alors ça, c'est relativement simple. Transformation, addition, soustraction. Alors, on va utiliser le tableau et on va rafraîchir l'écran après. Alors, j'ai une équation. J'avais dit quoi ? J'avais dit A plus B égale C moins D. Donc ça, il y a quatre chiffres qui sont liés par une relation. Et on part du principe que l'on connaît que l'on connaît A, C et D. Mais c'est B qu'on connaît pas. B est l'inconnu. Donc ce que l'on va faire, on va mettre A, c'est dans la donnée du problème. Ça, c'est la formule générale. A plus B égale C moins D, c'est ma formule. D'accord ? Que j'ai appris par cœur. Parce que je suis un bon élève. D'accord ? Et dans mon problème, on me donne A, C, D, et on me demande de calculer B. Simple. Donc qu'est-ce que je dis ? Alors par contre, le problème, c'est que j'ai une partie là du... le A est une donnée que j'ai. Donc ce qui serait bien, c'est de mettre tout d'un côté les inconnus et de l'autre côté les données. Donc ce qu'il faut faire, c'est le A... le mettre de l'autre côté du signe égal. Alors par principe, quand on dit que quelque chose est égal, c'est que si on fait la même chose d'un côté et de l'autre du signe égal, eh bien c'est toujours égal. Hein, typiquement quand on a une balance qui est équilibrée avec un kilo et un kilo de chaque côté, si on remet un kilo de chaque côté de la balance est toujours équilibrée. Ça, ça marche aussi dans la vie courante, ça. Hein? Donc, on va dire que le fléau de la balance, c'est le signe égal. Et que donc, si c'est égal, eh bien, si je mets la même chose de chaque côté, ça va marcher. Ça sera toujours égal. Donc, ce que je vais faire, là, je vais mettre de ce côté du signe égal moins A. Et donc, ici, moins A aussi, pour que ça marche. D'accord ? Si je fais moins A ici, mes deux A qui sont là, puisque A moins A, ça fait 0. Par contre, celui-là, je ne peux pas l'éliminer. Celui qui est de l'autre côté du signe égal, je ne peux pas l'éliminer. Donc là, alors attends, est-ce que ça va marcher là ? Parce que la webcam, là, c'est peut-être pas aussi évident que ça. On va la lancer, on va voir ce que ça donne. Et je l'envoie. Alors, je sais pas, je pense que ça va faire un peu de... Bon, donc là, ça a été transféré. Je sais pas combien de temps ça va mettre. On va visionner ça de l'autre côté, sur l'autre micro. Ça y est, c'est bon ? Non ? Bon, on va attendre un petit peu. Je sais pas si j'ai assez de... Alors... Ouais, effectivement, F0 EGJ, c'est tout à fait ça. Donc A plus B, si A est égal à B plus C, alors B est égal à A moins C, ou C est égal à A moins B. Donc ça y est, elle est rafraîchie la cam. Mais c'est lisible ou pas ? Ouais, y a des reflets de néon. Hein. C'est un peu blanc quand même. Hein. Bon, faudra essayer on va essayer de solutionner ça, mais c'est un problème d'éclairage, je pense, maintenant, parce que... Le tableau est relativement blanc et je pense que ce sont les néons qui font de la Ouais. Ah, alors attends. Est-ce que je sais pas si c'est Ah ouais effectivement, ouais. Retire l'autre.
Ouais, mais on va être dans le noir.
Ben non, on va pas être dans le noir. Ah bah voilà. Ah bah voilà, c'est bon. Bon, donc on a peut-être trouvé la solution. Là, c'est un peu mieux. Un peu mieux. Enfin, bon. Ou alors, il faudrait tourner le tableau pour éviter qu'il soit... Alors. Non ? Il faudrait être dans l'axe de la caméra. Bah, j'y étais, hein. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça. J'ai mis dans l'axe de la caméra. Ah ouais, ah bah, on va se le prendre sur la gueule. Mauvaise idée. Et là ? Ouais, bof. Attends. Ah là, ce soir, c'est un peu... C'est la mise en place, hein, attends. Alors, il n'y a plus de fumeur, hop. Alors vache. Bon, bah ça va pas. Hein. Bon. Ouais, non, mais c'est ça, on les voit les néons. Hein. On voit deux. Bah retire. Attends, ah ouais, bah, c'est l'autre qui me fout la merde là-bas aussi. Bon, attends, on va quand même pas te couper toute. Bon, on va faire un petit blanc sur 144 F6 GPX au plan F6 KGL. Ouais, mais c'est con, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est lisible, hein. Ah ouais. Tu vois, c'est le deuxième là-bas, c'est celui-là qui nous fout la merde là. Fais voir. Ouais, le marqueur n'est peut-être pas assez noir. Tiens, voilà, c'est ça, hein. Toc, voilà. Alors. Voilà, ben c'est bon. C'est bon, hein. C'est celui-là, tu peux le remettre, hein. Un rouge. Ouais, c'est rouge, hein. C'est le rouge qui est le meilleur. Bon. Bon, allez. Alors. Donc maintenant, voilà, ça va être en rouge, ça va être mieux. Bon, on a trouvé le feutre qui va bien maintenant. Donc F6, KGL qui reprend pour F6 GPX, donc on reprend. Oui, bah oui, moi je suis très net devant devant la caméra. Par contre, ce qui serait sympa, c'est que l'écran il soit bien. Mais là, je pense que maintenant ça doit mieux aller. Donc on continue sur notre histoire d'addition. Donc lorsque je mets sur le. Alors par contre, là pour vous, vous êtes complètement. Faudra vous mettre là la prochaine fois. Hein? Voilà, et donc là je fais moins A de l'autre côté, et donc là je supprime mes deux A. Donc là j'ai bien ma réponse B égale à C moins D moins A. Alors je rafraîchis l'écran. Clung, clung. Voilà. Donc là. Voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé là, ouais. Alors attends, ce qui s'est passé, ce qui fait, en fait, ce que j'ai fait, le A qui était là, je l'ai pris et je l'ai passé de l'autre côté. Et quand il passe de l'autre côté du signal, il devient moins. S'il est plus. Et s'il est moins, il devient plus. On change de signe. Ah. Attends, là, on est dans le cas des additions et soustractions. Donc là, maintenant, on voit le cas de la multiplication. Donc je pense que là, ça marche mieux, là. Ouais. Je l'ai renvoyé. Alors, deuxième cas. Bah, si vous voulez changer de place, hein, vous pouvez le faire tout de suite, non ? On va faire un petit blanc sur 144, F6 KGL opéré par F6 GPX. Hein? Ça se rafraîchit tout seul? Ah bah alors c'est bien.
Charles-Luc. Je lui dis, il y a la France entière qui voit le tableau sauf le mec du club.
Je vois rien. Bon, donc on continue F6 KGL opéré par F6 GPX. Maintenant on voit les multiplications. Et on va avancer un petit peu parce que là on a pris un peu de retard. Alors multiplication. Là j'ai un peu le même style, sauf que là j'ai une formule qui me dit que A multiplié par B est égal à C divisé par D. Bon, c'est une formule encore de radio, ça. Donc là, même chose. J'ai toujours mon B qui est mon inconnu. Enfin, oui, mon inconnu. Mes données sont toujours A, C et D. C'est une autre formule. Donc, ce que je fais maintenant, eh bien, comme j'avais dit tout à l'heure que l'on faisait la même chose chacun de chaque côté. Maintenant, ici, je divise par B de chaque côté. Donc, je divise par B là. Donc, je divise par B. Et là, je divise par B. Et comme je divise par B ici, B divisé par B, ça me fait 1. 1 multiplié par n'importe quoi, ça me fait toujours n'importe quoi. Donc, ici, c'est supprimé. Ce qui veut dire que d'une multiplication, lorsque je passe de l'autre côté du signe égal, ça me fait une division. Et inversement, si ça avait été une division, le fait de passer de l'autre côté, ça devient une multiplication. Alors, les divisions, généralement, on les met comme ça, c'est-à-dire que on devrait l'écrire de cette manière, c'est-à-dire on met pas la barre comme ça, on fait un trait et on la met en dessous. Oui.
Mon boss, quand il me divise ma paye au départ, à la fin, ça ne multiplie pas.
Ah oui, c'est pas une équation. Oui, oui. C'est une équation où il n'y a pas de solution. Donc, ça veut dire que le B, il est passé en dessous. Hein, c'est-à-dire que là, c'est une autre manière de formuler la division. Hein, soit je mets un trait comme ça, ou alors je mets un trait comme ça, pour dire que l'ensemble est divisé par B. D'accord ? Je fais un petit rafraîchissement. Hop, hop, j'envoie le rafraîchissement. Voilà, ça bosse un petit peu. J'espère que ça fait pas trop de coupures. Et maintenant, on a donc nos racines carrées. Alors, les racines carrées, c'est beaucoup plus simple. Si j'ai ici un, par exemple, A au carré égale B, et que je veux connaître la valeur de A, si c'est A mon inconnu, eh bien, il suffit de faire racine carrée de chaque côté. C'est-à-dire que je dis, lorsque j'ai un carré et que je veux le rendre normal, sans carré, il faut que de l'autre côté, je fasse la même opération. C'est-à-dire qu'alors que si j'ai racine carrée de A au carré, c'est égal à A. Hein, puisque la racine carrée, c'est la manière de trouver ce nombre multiplié par lui-même. Donc si je le mets déjà au carré au début, si je prends la racine carrée, automatiquement j'ai ce nombre-là. Puisque je fais un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et si je fais racine carrée ici, racine carrée de A au carré, ici j'aurai racine carrée de B. C'est-à-dire que là, je supprime le carré, ça me fait racine carrée de B. Donc A égale racine carrée de B. Inversement, si j'avais racine carrée de A égale B, alors à ce moment-là, il faut que je multiplie par lui-même ici et ici. Donc ça me fait A est égal à B au carré. Voilà. Donc ce sont les trois. Donc ça, c'est l'addition. Ça, c'est la multiplication ou division. Et ça, c'est les racines carrées. Voici les trois. Alors, on va rafraîchir. Photo, rafraîchissement. Voilà, c'est parti. Peut-être avec quelques coupures. Donc, voilà les trois transformations qui sont... Alors ça, il faut bien avoir ces notions-là quand on commence, parce que sinon, après, on va souvent les utiliser pour les lois d'Ohm, tout au moins, tous les premiers paragraphes du cours. Hein. Donc là, il faut absolument avoir ces notions-là. On va revenir dessus, de toute façon, vous inquiétez pas, et on a des systèmes qui permettent de s'y retrouver plus simplement. Mais quelquefois, on est un peu coincé parce que, sauf à apprendre des tas de formules par cœur, en fait, l'idée, c'est d'en apprendre une et de savoir la transformer. Hein, parce que autant apprendre le minimum de formules et plutôt le reste, plutôt que d'apprendre des formules dans tous les sens, et puis après, on se les mélange. Donc, je préfère, d'autant plus que quand on parle de formules, ce sont des formules qui sont, je vais dire par exemple U égale RI, c'est la formule de base. Toutes les autres, ce sont des formules dérivées. Donc à la limite, il n'y a pas à les apprendre. On doit les retrouver toutes seules. Bon, normalement, au bout d'un moment, ça devient un réflexe. À force de les manipuler, on retrouve. Mais normalement, il n'y a pas à les apprendre par cœur. On doit les... au bout d'un moment, d'ailleurs, ça doit venir tout seul. Hein, des... On sait quelle opération on doit faire tout de suite. Ce qui est, alors, en termes de vocabulaire, alors le résultat de l'addition, ça s'appelle une somme. C'est bête, mais enfin, dans la suite du cours, quand on parle de somme, c'est que on fait toute une série d'additions. Et quand on parle de somme, ça peut être aussi des additions négatives, donc des soustractions. Hein? Parce que quand on peut arriver, quand on fait la somme, quand on fait une somme algébrique, on peut arriver à un résultat négatif, parce que dans cette somme, il y a des éléments qui sont négatifs. C'est très possible. Quand on parle d'une soustraction, le résultat d'une soustraction, ça s'appelle une différence. Alors au niveau des rafraîchissements, qu'est-ce qui est recommandé ? La bière, c'est pas mal. Mais plus concrètement, normalement, le rafraîchissement, on l'a regardé ici, nous, il fonctionne sans problème sur l'autre écran du Radio Club. Donc normalement, ça ne devra pas poser de problème. Hein. Normalement, il n'y a pas à cliquer sur rafraîchissement, ça doit se passer tout seul. À moins que... Ouais, bah, apparemment ça se passe tout seul. Elle n'avait pas été chargée ? Ah ah, bon. Bah, j'ai relancé le chargement là. Ouais, effectivement, il faut avoir deux écrans ouverts pour voir si ça fonctionne. A priori, là, c'est parti, là. Ça y est. Le deuxième, là, il y a eu les deux. Les deux flux sont passés, là. Donc, en continuant, le résultat d'une multiplication, ça s'appelle un produit. Hein, quand on parlera de produit dans la suite du cours, c'est qu'on parlera de multiplication. Enfin, le résultat d'une division ou d'une fraction, ça s'appelle un quotient. Et quand une fraction, il y a deux termes dans une fraction, il y a quelque chose qui est au-dessus et quelque chose qui est en dessous. Hein. Ce qu'il y a au-dessus, ça s'appelle le numérateur, et ce qu'il y a en dessous, ça s'appelle le dénominateur. Alors ça, c'est pareil, c'est des termes qu'on va retrouver dans la suite du cours. Donc autant en parler tout de suite, comme ça, ça évite de se poser des questions, de savoir de quoi on cause. Ah. Qu'est-ce qu'on peut dire encore d'intéressant ? Sur les formules, dans toutes les formules, on va avoir des parenthèses. Alors, normalement, les opérations se font dans un sens bien précis. C'est-à-dire qu'on va commencer par, sans qu'il y ait de parenthèses, on va commencer par faire déjà tout ce qui est racine carrée ou mise au carré. C'est-à-dire qu'il y a des opérations qui sont prioritaires et qu'il faut connaître. Parce que sans... Pour autant qu'il y ait de parenthèses, il faut savoir dans quel ordre on fait les opérations. Apparemment, le rafraîchissement a eu lieu. Ouais, le rafraîchissement a eu lieu. Donc, la première chose, c'est quand on a des opérations combinées, c'est-à-dire quand on a un mélange d'addition, de multiplication et de racine carrée ou de puissance. Donc il faut savoir dans quel ordre on fait les opérations, parce qu'il est évident que si on les fait dans un ordre, ça donne un chiffre, et si on les fait dans un autre ordre, ça donne un autre résultat. Et il y en a un des deux qui est faux. Ça, c'est sûr. Donc, on commence déjà systématiquement par faire toutes les opérations qui concernent une racine carrée ou un carré. Ensuite, on fait toutes les opérations qui concernent les multiplications ou les fractions. Et enfin, on fait addition et soustraction. Donc, faut bien faire dans cet ordre. Et évidemment, quand on a des parenthèses, Eh ben, on commence par faire les opérations qui sont dans la parenthèse, avec toujours le même ordre. S'il y a une racine carrée ou un carré, on commence par ça, puis après la multiplication-division, et après addition-soustraction. Alors, quelquefois aussi dans les formules, pour simplifier, parce que des fois il y a possibilité de mettre une parenthèse dans une parenthèse. Alors là, au bout d'un moment, on ne voit plus où est le début, où est la fin. Donc, pour éviter ce problème-là, on utilise des crochets. Ah. Donc, c'est la même chose. Le crochet a la même valeur qu'une parenthèse, si ce n'est que c'est pour les distinguer. Ah oui. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est quand on peut transformer des soustractions, enfin tout moins, soustraire un nombre négatif, ça revient à l'additionner. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aussi au résultat, parce que par exemple, si dans ma première équation, mon D était négatif, eh bien il faudrait l'additionner à C, puisqu'il est négatif. Donc soustraire un nombre négatif, ça revient à l'additionner. De même, diviser une fraction, ça revient à multiplier. À chaque fois, je vous rassure, hein, les calculettes savent très bien faire ça. Hein. Mais si vous faites vos calculs à la main, sur une feuille de papier, il faut bien penser à ça. La calculette, elle sait faire, heureusement. Mais bon, si on veut faire des calculs à la main, il faut bien y penser. Et enfin, dernière chose, là je vais effacer le tableau. Les gros miracles, ça efface. Voilà. Et dernière chose, alors ça s'appelle les règles de proportionnalité. Bon, ça c'est du langage mathématique et c'est pas à connaître. Par contre, ce qui est important, c'est quand on a deux fractions qui sont comme ça dans une équation. Ça veut dire que le rapport que l'on a là, A divisé par B, est égal au rapport de C divisé par D. Ça, on va l'utiliser souvent, en particulier dans les transformateurs. Parce qu'un transformateur, ça transforme, et donc le primaire, la puissance du primaire va être égale à la puissance du secondaire. Et donc, le signe égal, là, c'est typiquement, ici on a le primaire, ici on a le secondaire. Hein. Donc, le transformateur, c'est aussi un transformateur d'électricité, mais aussi ça transforme des équations. Et en règle générale, dans l'exercice, on va avoir trois données et une inconnue. Alors là, on va utiliser pour solutionner cette équation, on va dire par exemple, alors là, qu'est-ce que j'ai dit que c'était ? C'est le D qui est inconnu, donc c'est celui-là qui est inconnu. Le D est inconnu et donc on connaît A, B et C. Alors il y a une technique qui est très simple pour connaître D, c'est ce qu'on appelle le produit en croix. Alors ça, c'est un truc tout bête, mais ça marche à tous les coups. Le produit en croix, on va dire que la croix c'est ça. Hein, la croix c'est ça. Ça c'est une diagonale de la croix et ça c'est la deuxième diagonale de la croix. Voilà. Alors ce que l'on fait, on fait B multiplié par C, c'est-à-dire le produit de la première diagonale, divisé par A, c'est-à-dire l'opposé. On se rappelle, produit de la diagonale divisé par l'opposé. C'est-à-dire on multiplie B par C, divisé par A. Si l'inconnu n'est pas D, mais par exemple C, à ce moment-là, on fait A multiplié par D, divisé par B. Et inversement, si c'est le A, c'est B multiplié par C divisé par D. Enfin bon. Et ça marche à tous les coups. C'est un truc tout bête. Ça, c'est... Alors, quand j'ai expliqué ça à ma fille en sixième, elle m'a regardé. Mais ça marche à tous les coups. Donc voilà, le produit en croix, on va l'utiliser ça dans les ponts de Wheatstone et quand on fera les transformateurs. Je passe l'image, voilà, elle est en train de passer sur internet. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'elle va être rafraîchie. Donc voilà ce que l'on peut dire sur les rappels d'algèbre et de mathématiques. Je pense que ça devrait suffire pour le reste du cours. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus délicat, qui sont les puissances de 10 multiples et sous-multiples. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, en radio, comme d'ailleurs dans beaucoup de... Dans tout ce qui est physique et même pas spécialement physique, dans beaucoup de domaines, en fait, on a une unité, tout au moins quand on utilise des données physiques, on a une unité, comme par exemple l'ohm, l'ampère, le volt, etc. Mais en fait, on utilise plusieurs grandeurs. Par exemple, l'ohm, on va utiliser l'ohm, mais aussi le mégaohm, le mégaohm. Mégaohm, ça fait pas beau. Mégaohm. Ça y est, c'est rafraîchi. Ouais, ça y est, c'est rafraîchi. On va faire un petit blanc sur 144 là, parce que je m'éternise un petit peu. F6 KGL opéré par F6 GPX. Ouais, donc on reprend F6. C'est bouillant le câble? Ah, c'est le porte fusible. Bah, attends, je vais réduire un peu la puissance alors. Je réduis la puissance. Alors attends, la puissance elle est où? RF gain. Voilà, donc RF gain a été baissé un petit peu. Donc pour nos puissances de 10, là, on va s'apercevoir qu'en fait on va utiliser non pas les unités, mais on va utiliser soit des multiples lorsque la valeur va être très grande, ou des sous-multiples au contraire lorsque la valeur va être très petite. Valeur très petite, c'est typiquement le farad, puisqu'un condensateur d'un farad, c'est un truc qui est monstrueux. Il tient à peine dans la pièce là, donc bon, enfin, j'exagère peut-être un peu, mais c'est une grosse bête. Ouais, bon, enfin bon, les plus petits en l'occurrence, ce sont presque des accumulateurs que des condensateurs, parce qu'en fait ils ont une valeur de tension qui est très très faible, ou tout au moins compris dans une certaine valeur, et on peut pas faire ce qu'on veut. Donc on est à la limite entre l'accumulateur et le condensateur là. Mais quand on parle de condensateur, je dirais normalement constitué, c'est un farad, c'est énorme. Donc en fait, nous on utilise essentiellement des micros, des nanos et des picofarads. Et inversement, lorsque l'on monte dans les grandes valeurs, on va utiliser plutôt, par exemple pour le hertz, on va utiliser le kilohertz, le mégahertz ou le gigahertz. Le terahertz n'est pas encore à l'ordre du jour, puisque faut quand même y aller. Hein? Alors, donc les multiples et les sous-multiples ont été codés de telle matière que ça va de puissance de 10. Les puissances de 10 vont de 3 en 3, c'est-à-dire qu'on fait l'unité, puis après le millier, puis après le million, puis après le milliard, et inversement le millième, le millionième, le milliardième pour les plus petites unités. Et à chaque fois, donc, il y a un nom bien spécifique. Pour le millier, c'est le kilo, pour le méga, c'est le million. et pour les milliards de hertz, ce sont des gigas. Inversement, le millième, c'est un milli. Le millionième, c'est un micro. Le 10 puissance moins 9, donc le milliardième, c'est le nano. Et le 10 puissance moins 12, c'est le pico. Alors, il existe d'autres multiples et sous-multiples. Je vous laisse les découvrir. Le térahertz est assez connu, mais au-delà, il y a le pétahertz éventuellement. Et inversement, dans les plus petites valeurs, on a le femto, l'atto, le zepto et le yocto. Donc, ce sont ce sont des très petites valeurs. Ouais. Alors, pour passer d'un multiple à l'autre ou d'un sous-multiple à l'autre, eh bien en fait, ce que l'on va utiliser, c'est on a un nombre. Donc là, on va utiliser la table de conversion qu'il y a en dessous. Alors, je vais dessiner ma petite table de conversion au tableau. La table de conversion. Alors, pour ceux qui sont mal à l'aise avec l'algèbre, je vous conseille de mettre ce tableau, cette table de conversion en haut de votre feuille de brouillon pour pouvoir l'utiliser en cas de besoin. Donc, on peut mettre un trait sous l'unité et puis après, des traits. Alors, deux petits traits pour séparer les nombres et un grand trait après pour séparer là les multiples et les sous-multiples. Alors, exemple, je crois que le mieux c'est de prendre des exemples plutôt que de faire des explications compliquées. Quand on veut convertir des kilos en mégas, donc la première chose, si on a des kilos, par exemple l'unité étant sous un trait, je vais rafraîchir l'écran là avec ma table de conversion vierge. Donc, voilà, le transfert est en cours. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Ma table de conversion vierge là est partie. Lorsque je veux transformer mes 25 kilos en mégas, eh bien ici j'ai l'unité, ici le kilo et ici le méga, donc mes 25 kilos sont là, hein, puisque mon kilo est là, donc je positionne mes chiffres à gauche du kilo. Hein, on voit bien là, c'est écrit 25 kilos. Et pour transformer ça en méga, mon méga est là, donc ma virgule, si elle existe, va être là. Et donc, toutes les cases qu'il y a avant, là, je mets des zéros. Mes cases vides. Je mets des zéros. Donc, ça va me donner 0,025 méga, puisque ma virgule, elle est sous le méga. D'accord ? Je sais pas s'il est passé là le rafraîchissement, je crois pas. Ah si. Ah ouais, alors là j'ai la main devant, là c'est raté. C'est raté. Bon, je le fais sans mettre ma main devant. Voilà, c'est parti. Non mais j'ai dû merder tout à l'heure. Comme c'était pas parti tout de suite. Donc voilà ma table de conversion pour l'exemple numéro 1. L'exemple numéro 2, là ça va être du côté des plus petites valeurs. Donc ici ce sont des millis après l'unité. À droite de l'unité c'est les millis, puis après les micros. Alors les micros c'est une lettre grecque, c'est la lettre grecque mu. C'est le M grec. Qui veut dire mu, qui va signifier micro. Ça vous l'avez, alors là vous le voyez tout le temps ça, sur le mu, cette lettre-là, vous la voyez sous le temps. Dans les descriptions électroniques ou autres, ça, elle est assez classique. Donc c'est une sorte de U avec une barre devant. Et que si vous allez en Grèce, c'est le M. Sur les boîtes de feta, il y a marqué. donc là, la conversion, là je vais convertir des micros en milli. Donc j'ai 1500 micros. Alors 1500 micros, je mets 1500 micros, hein, comme tout à l'heure, 1500, là je mets tous mes chiffres dans mes cases, et ça me fait donc 1500 micros. Ces 1500 micros, je vais les transformer en milli. Alors j'ai pas dit encore quelle unité c'était, si c'était des ampères, des volts, on s'en fout pour l'instant, hein. C'est pareil, ça marche de la même manière. Apparemment, ça a l'air de rafraîchir. Donc voilà, le 1500, lorsque je transforme ça en milli, en fait, ma virgule qui était ici, je la mets ici maintenant, puisque je l'ai transformée. Et si je la mets ici, ça me fait 1,5 milli. Et les deux zéros derrière, ils sautent, ils servent à rien. Hein, tous les zéros qui sont à la suite me servent à rien. De même que si j'avais des zéros ici devant, ils ne me servent à rien non plus. Donc je les oublie ceux-là. Hein, tous les zéros qui sont ici à gauche de la virgule ne servent à rien. Enfin à gauche du premier chiffre significatif ne servent à rien. Et tous les zéros après la virgule, après le dernier chiffre significatif à droite de la virgule, ne servent à rien non plus. Donc ceux-là, on les élimine. Enfin, on les élimine, on les reporte pas. L'exemple numéro 3. Alors là, l'exemple numéro 3, je convertis de l'unité en milli. Alors, là, je vais être obligé de refaire mon tableau, parce que ça va plus aller. Au moins, je le mets en dessous dans ce cas-là. Donc là, j'ai 0,45. Voilà. Voilà, 0,45. Et ce 0,45, je veux le transformer en milli. Alors, le 0,45, je vais rajouter ici un 0 qui me manque pour arriver au milli. Puisque là, je suis obligé de mettre un 0. Et puis maintenant, la virgule n'est plus ici, mais elle est ici. Ah bah parce que là, j'ai dit que c'était 0,45 unités. C'est un autre exemple. Tout dépend d'où tu pars. Ma réponse est 0,45 volts, par exemple. Oui. Bah 1500, faut bien que je le colle ici contre le. J'ai des micros, j'ai 1500 micros, donc je les colle au bout là. Ouais. Ma réponse là, c'est 0,45 volts par exemple, donc je mets 0,45. Point. C'est l'unité. La réponse était déjà des micros. Hein, dans ta formule, quand tu appliques ta formule, tu sais que tu vas trouver des micros. Donc, et puis par contre, toi, ta réponse, on te la demande en milli, évidemment, tant qu'à faire. C'est mieux. Ça serait trop facile, sinon. Et donc, là, ça me donne 0,45, ça me donne 450 milli. Par exemple, milliampères. Ou millivolts, enfin, bon, on s'en fout, hein. On n'en est pas encore à savoir de quelle formule on parle. Ça viendra par la suite. Donc ça, c'est pour transformer. Et ce tableau-là, il faut absolument l'avoir soit dans la tête, et si vous ne l'avez pas dans la tête, c'est sur la feuille de papier. Il n'y a pas d'autre solution. Et comment ? Mais au départ, faut prendre le temps pendant que la fille, elle rentre ses paramètres dans le Minitel. La fille ou le... La fille ou l'examinateur... La fille ou l'examinateur... Ah oui, mais ça, ça dépend. Vous avez eu de la chance. Ouais, ça, ça revient. Ouais. Ah ben c'est pareil. Ça marche de la même manière. Ah oui, c'est exactement. Oui, oui, on peut se, éventuellement au départ pour se refamiliariser, l'histoire des millimètres, mètres, kilomètres, ça marche pareil. C'est exactement pareil, hein. Ou grammes, kilogrammes, tonnes. Ah oui, oui.
On partait à gauche.
Ah ben oui.
Et puis on vient, on partait à droite sur les cantarios.
Oui. Non, ben, c'est-à-dire que c'est, quand on parle de notion de poids ou de distance, il y a par exemple le centimètre. Là, on ne va pas utiliser par exemple le centifarade. Ça n'existe pas.
Non,
mais
évidemment, c'est pas fait, oui.
Ah. Ouais, non, ben ça c'était une autre, c'est une autre histoire. À peu près, oui. Donc, ouais, donc si on veut se familiariser un peu avec tout ça, effectivement, on reprend. Ouais, il y a aussi les litres, les centilitres et les millilitres, effectivement. Il y a toutes ces deux unités que. Ah oui. Ah oui, oui. De toute façon, ça marche de la même manière. Hein. On est en physique. On est en physique, on est exactement dans le même sujet. Hein. Sauf que nous, les litres en radio, ça nous sert à rien.
Non.
C'est pour les concours. qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, lorsqu'on utilise une formule, il faut faire très attention, en particulier quand il y a des additions et des soustractions. Il est impératif d'utiliser toujours la même unité, le même multiple ou sous-multiple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas additionner des choux et des carottes. Si on a 10 milliampères et je sais pas moi. Oui, mais en restant dans la même unité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas additionner 10 milliampères avec des ampères, par exemple. Il faudra transformer les milliampères, enfin partout, soit en ampères ou en milliampères, et après calculer. Voilà. Voilà. Alors, la solution, encore une fois, c'est de passer par la calculette. Parce que la calculette, elle sait très bien faire ça. Il faut lui donner. Oui, mais dans ce cas, dans ce cas-là, il faut dire à la calculette, ça, ce sont des milliampères, là, ce sont des ampères. Il faut bien appuyer sur la bonne touche pour lui faire dire que c'est bien des milliampères et non pas des ampères. Donc, on verra l'utilisation de la calculette la semaine prochaine. Effectivement, 10 ampères plus 10 milliampères, ça donne 10,01 ampères, mais encore faut-il avoir transformé et avoir su transformer le 10 milliampères en 0,1 ampères. Donc c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Même chose quand on parle de multiplication et de division, il faut faire très attention parce que quand on multiplie des kilos par des mégas, eh bien ça donne n'importe quoi. En particulier, ça donne des gigas. Hein, donc il faut faire ou si on multiplie des kilos par des micros, ça marche, enfin c'est pas aussi facile que ça. Donc il faut tout remettre dans l'unité, ou alors utiliser la calculette et rentrer comme il faut 10 kilos et des micros. Donc il faut faire très attention. L'exemple typique, alors aussi attention à la racine carrée. La racine carrée, quand on a des puissances de 10, ça fout, c'est un petit peu le bordel parce que, enfin, tout moi, si on fait ça à la main, toujours pareil, hein. Si on fait ça à la main, une puissance de 10, ça se simplifie pas comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a que les puissances de 10, enfin, quand on est en racine carrée, il n'y a que les puissances de 10 qui sont paires, qui, en fait, il faut diviser par 2. La puissance de 10. Donc, ça, c'est pas aussi facile que ça. Et l'idéal, de toute façon, comme on le verra encore une fois, la calculette, c'est très bien faire ça toute seule. Donc, je dis, à chaque fois, je le dis, je le répète, mais il faut absolument bien se savoir se servir de sa calculette pour éviter de faire le maximum, enfin, éviter de faire des calculs à la main sur la feuille. Que tous les calculs soient faits au maximum. Alors, tous les problèmes peuvent venir effectivement en saisie sur la calculette, et c'est pour ça qu'il faut connaître sa calculette et avoir l'habitude de faire des calculs. Il n'y a que comme ça que ça vient, à force d'utiliser une calculette qu'on comprend mieux comment ça marche.
Le problème avec moi, c'est que la calculette, elle se fait toute seule, mais moi, je suis avec elle et
j'y arrive. Mais si... Ah oui, ça. La calculette, elle suit pas le maître. Ouais, mais alors là, le mieux encore, c'est de le faire sur la calculette, parce que là, au moins, la calculette, elle va donner tout de suite la réponse. alors, un exemple de calcul, juste, enfin, sans calculette, mais un exemple de calcul quand même. On va utiliser, on va avoir une résistance de 5 kΩ. Et une tension de 2 millivolts. Alors ça, bon, je vous donne tout de suite la formule, on verra plus tard comment, enfin, dans 15 jours, maintenant, comment y arriver. Donc la formule, c'est P égale U2 sur R. Ça, c'est la formule de base. Et ce P égale U2 sur R, donc U2, c'est 20 milliampères, donc c'est 0,02 au carré divisé par 5 kilos, c'est-à-dire 5000. Alors, on peut le faire très bien à la calculette, ça. Ou on peut le faire à la main aussi, c'est moins pratique. Donc là, j'envoie j'envoie l'image. Et en fait, là, ça me donne. Alors, quand on développe ça, alors 0,02 au carré, ça donne 0,0004 divisé par 5000. Et ça me fait 0, alors là il y a des tas de 0, exactement ça me donne 0,8 multiplié par 10 puissance moins 7, ou alors 8 multiplié par 10 puissance moins 8, c'est encore plus simple. (10⁻⁸). Donc, voilà, ça passe, ça, c'est lisible. Ouais. Donc, 8⁻⁸. Alors là, évidemment, mon tableau, il est pas assez grand. Donc, il faut que j'en rajoute ici. Je sais pas si... 1, 2, 3. Ici, j'ai donc le nano. Ici, c'est 10⁻⁹. Moins 6, moins 3. 10⁻⁹, c'est-à-dire que je vais avoir 9 chiffres après la virgule. Enfin, que ici j'ai 9 chiffres après la virgule. Après l'unité. Exactement. Donc c'est un milliardième. Hein? Et quand je suis à 10⁻⁸, c'est-à-dire que je vais mettre mon 8 ici. ici, puisque là c'est moins 9, donc moins 8 il est là. Oui, oh, ça marche. Et donc là, je comble avec mon 0, et ma réponse c'est 80 nano, en l'occurrence ce sont des watts. 80 nanowatts. C'est-à-dire pas grand-chose. Ah, donc là, ça va pas vous chauffer la maison. C'est pas comme ce soir. Voilà. Donc tout ça, alors je vais le mettre et l'envoyer, voilà. On va voir si ça rafraîchit bien. Donc voilà, je pense que le cours, on va s'arrêter là pour ce soir. On verra l'utilisation des calculettes la semaine prochaine, parce que il y a pas mal de... C'est un sujet qui est relatif. Faut y prendre son temps pour essayer de comprendre comment fonctionne chacune des calculettes. Voilà. Alors, il y a trop de coupures. Alors qu'est-ce qui n'était pas compris? Si c'est cette histoire là de formule, en fait ce qu'il faut faire c'est prendre sa calculette et la faire fonctionner, donc 0,02 au carré divisé par 5000. Sinon la deuxième solution c'est de le faire à la main. Alors moi je sais le faire parce que bon à force on y arrive, mais 0,02 au carré, c'est-à-dire multiplié par lui-même, en fait il faut ça fait 2 au carré, donc ça fait 4, et après là comme j'ai 2 zéros, et eh bien ça me rajoute encore 2 chiffres après la virgule, ça m'en fait 4.